La situation des prisons sur le continent est diverse et variée. Quelle est la situation des détenus, Marie ?
J'ai envie de te dire qu'elle est aussi diverse et variée, et en même temps qu'elle ne l'est pas. En fait, d'un côté, il faut toujours garder à l'esprit l'extrême diversité des situations des détenus dans les prisons. Et puis d'un autre côté, il y a des récurrences. Par exemple, les majeurs sont beaucoup plus incarcérés que les mineurs. Les hommes sont plus souvent détenus que les femmes. Alors, comment cela s'explique ? Est-ce que les femmes et les mineurs commettent moins de délits et de crimes ? Est-ce que ce n'est pas aussi la justice qui est plus tolérante, quitte à les condamner à des peines avec sursis ? Et puis, il existe aussi des protections légales, hein, à l'encontre des mineurs, notamment. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en amont de la prison, il faut comprendre les politiques pénales, leur application concrète et finalement les représentations qu'a une société donnée de la justice.
Mmh. Mais tu n'as pas parlé de la situation des étrangers en prison.
Oui, tu as raison, j'en ai pas parlé. C'est vrai aussi qu'on a quand même un manque d'informations important. Mais cela étant, il y a des détenus étrangers. Alors, ils ne sont pas nécessairement en prison au titre d'une infraction sur la législation des étrangers. Ils peuvent être en prison parce qu'ils ont commis un délit, un crime, et éventuellement pour ces deux motifs. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que si on est étranger, c'est que souvent on est loin de sa famille. Et donc on va se retrouver dans une situation très précaire pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se soigner, mais aussi pour faire avancer son dossier devant le tribunal. Alors, il peut exister des formes de solidarité sur des bases d'appartenance nationale, religieuse, mais cela étant, en prison, les solidarités sont limitées. Alors, dans ce cas, notamment à l'égard des détenus étrangers, ce sont souvent finalement des organisations internationales, des ONG, qui vont intervenir pour les soutenir. Ça peut être le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, ou la Croix-Rouge internationale, le CICR, par exemple.
Dis-moi, Marie, toutes les personnes incarcérées sont-elles condamnées ?
Non, en fait, il faut distinguer des condamnés les personnes incarcérées au titre de la détention provisoire. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas encore été jugées ni condamnées, mais la loi prévoit de les placer en détention provisoire. Donc dans ce cas-là, on va parler de prévenus. Alors on remarque sur le continent africain que ces prévenus sont très importants. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vraiment le taux de personnes incarcérées mais qui sont en détention provisoire, ce taux est important. Et ça pose question quand on est face à des prisons qui sont marquées par la surpopulation. Et puis ça pose aussi question parce que finalement on peut rester des mois et des mois en situation de détention provisoire. Donc quel est le sens de sa présence en prison dans ce cas-là ? Au Cameroun, il y a des personnes qui passent plus de 2 ans en détention provisoire.
Et puis tu sais, c'est d'autant plus problématique que des personnes en préventive, c'est-à-dire non condamnées, n'ont pas accès aux corvées dans les prisons.
Oui, là tu parles des corvées, donc le fait que des personnes puissent travailler, éventuellement sortir pour travailler. Mais finalement, quand on est en détention provisoire, on n'a pas non plus les mêmes accès aux cellules, à un lit. Mais après, il ne faut pas oublier autre chose, c'est que même une personne qui a été jugée et condamnée, en première instance, pour reprendre l'expression francophone, elle aussi, elle va avoir tendance à vouloir aménager sa peine, éventuellement la réduire. Elle va vouloir passer devant une cour d'appel. Une fois qu'on est passé devant une cour d'appel, on veut aussi passer devant une autre cour. Alors, selon les pays, on parle de cour suprême, cour de cassation. On a toujours ce souhait, éventuellement, de réduire sa peine, de l'aménager, aussi d'attaquer sur des points de procédure. Une personne, elle peut aussi espérer avoir un transfert, soit parce qu'elle veut se rapprocher de la cour d'appel, dont on parlait à l'instant, soit qu'elle veut se rapprocher de sa famille.
Mmh. Mais alors, concernant les détenus, quels sont les types d'incarcération et quelles sont les peines prononcées pour les détenus ?
On manque cruellement d'informations. Et pourtant, ces statistiques pénales, pénitentiaires, elles seraient vraiment très utiles. Mmh. Alors attention, ces statistiques, elles ne nous renseigneraient pas forcément sur le nombre exact de crimes et de délits commis. Tout le monde ne porte pas plainte, il y a certaines enquêtes qui n'aboutissent pas, il y a aussi des situations de corruption. Mais toujours est-il que ça nous donnerait à voir éventuellement les motifs principaux d'incarcération, comme tu le demandes, mais aussi qui on incarcère. Si je regarde les dossiers du greffe de la prison centrale de Yaoundé, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'en général, on est incarcéré principalement pour vol. Après, il y a différents types de vols. Et puis, qu'on incarcère surtout des hommes, jeunes, issus des quartiers populaires et qui vivent d'activités informelles. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les délinquants et les criminels sont dans les quartiers populaires. En fait, on peut plutôt se demander dans quelle mesure on ne surveille pas et on ne réprime pas davantage les habitants des quartiers populaires.
Une question qui a été soulevée largement pour les prisons occidentales.
Oui, en fait, c'est une question universelle, hein, et récurrente. Quand un directeur de prison malgache dit « Ah, il faut que je mette en place une activité d'enseignement parce que mes détenus se caractérisent par un taux important d'analphabétisme ou d'illettrisme », ça pose question. Oui, c'est légitime de vouloir mettre en place une activité pour enseigner, mais il faut peut-être se demander pourquoi autant de détenus illettrés dans une prison. Qu'en est-il de ceux qui sont coupables d'abus de biens sociaux, de détournement d'argent public, de fraude? Est-ce que systématiquement ils sont poursuivis? Est-ce que systématiquement ils sont condamnés à une peine de prison? En fait, on n'est pas égal devant la prison.
C'est un commentaire que les détenus font souvent dans les prisons africaines.
Oui, tout à fait. Et puis là aussi, c'est peut-être universel.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la peine de mort?
Alors, la peine de mort, on est face à des situations disparates. En Somalie, elle existe toujours et il y a des exécutions. Par contre, au Bénin, la Cour constitutionnelle a aboli la peine de mort. Mais il n'y a pas encore la loi qui permet véritablement d'appliquer cette abolition. C'est-à-dire qu'il y a des détenus condamnés à mort qui sont encore dans les prisons béninoises. Et puis, au Tchad, là, il est plutôt question d'abolition partielle. C'est-à-dire, on a aboli la peine de mort, mais attention, on peut quand même condamner à mort des personnes qui sont incarcérées et jugées pour terrorisme. Or, on sait bien que le Tchad, en ce moment, est engagé dans la lutte contre le groupe Boko Haram. Et puis, il y a d'autres situations encore. Au Cameroun, la peine de mort n'est pas abolie, mais par contre, elle n'est plus prononcée depuis des décennies. Donc, les condamnés à mort se considèrent un petit peu comme des condamnés à perpétuité, même s'ils aimeraient bien que ce soit effectivement reconnu devant un tribunal. Et ils vont tout faire pour, d'ailleurs, qu'il y ait cette transformation et voir éventuellement s'ils arrivent à être finalement condamnés à perpétuité, à voir encore leur peine réduite.
Mais alors, comment doit-il se faire pour y parvenir ?
Il y a plusieurs choses. Il faut d'abord avoir des moyens, notamment pour avoir un avocat, parce que les avocats commis d'office, ils ne sont pas nombreux, ils sont très mal payés, souvent payés en retard par l'État, donc finalement, ils sont démotivés. Il faut aussi le soutien de la famille. Or, quand on est face à des personnes qui vivent des longues peines, eh bien, il peut y avoir une démobilisation des proches. Et puis, il faut aussi comprendre le droit, il faut comprendre ce qui vous arrive. Alors, à ce sujet, je voudrais quand même signaler que des détenus, toujours ces longues peines, eh bien, ils ont assisté à beaucoup d'audiences. Pas seulement la leur, les audiences aussi d'autres co-détenus. Ils ont éventuellement rencontré des avocats, ils ont pu en embaucher de temps à autre, selon leurs moyens. Ils ont discuté avec des ONG, ils ont pu lire des codes pénaux dans des bibliothèques de prison. Donc finalement, il y a un apprentissage du droit, il y a un savoir pratique. Il y a des détenus aujourd'hui qui disent « nous sommes les avocats de la prison ». Or, les organisations internationales ou les ONG, parfois, l'ignorent, ne le reconnaissent pas, certains magistrats le méprisent. Alors, c'est important de rappeler que les détenus peuvent aussi être sujets de leurs droits.
On voit bien ici que tu fais également mention, en fait, de pratiques informelles, de savoirs informels. Est-ce que tu pourrais développer un peu plus cette question ?
Oui. Alors, si je prends l'exemple des condamnés à mort, dans certaines prisons, dans certains pays, hein, pas de généralité. En général, c'est entre le formel et l'informel, ils peuvent avoir une cellule seule, ou en tout cas qui partage avec deux, maximum trois détenus. Donc, ils ne sont pas dans des quartiers qui peuvent être marqués par la surpopulation. La deuxième chose, c'est qu'en général, de manière beaucoup plus informelle, ils vont avoir le droit de circuler dans la prison, d'aller dans d'autres quartiers de détention, d'aller dans la cour, ce qui n'est pas le cas d'autres détenus. Ils vont aussi pouvoir embaucher, justement, d'autres détenus pour faire le ménage, pour faire la cuisine. Et d'ailleurs, ces autres détenus, c'est important pour eux parce qu'ils ne vont pas nécessairement être payés, ils ne vont pas recevoir de l'argent, mais le fait d'accéder à un quartier qui n'est pas marqué par la surpopulation, dans le cas de prison surpeuplée, eh bien, ça leur permet, pour être pragmatique, d'aller plus facilement se doucher, d'aller plus facilement aux toilettes. Bon, et puis après, il y a des détenus qui vont développer des activités économiques, hein, informelles. Ça peut être préparer du poisson, vendre des beignets. Ça peut être aussi faire du trafic de cigarettes ou d'alcool. Donc, en fait, il faut considérer le statut pénal, mais aussi les origines sociales des détenus. Il faut considérer aussi leur âge, le genre, et puis finalement tous ces statuts informels que l'on acquiert au fur et à mesure de son incarcération ou de ses incarcérations. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous permettent de comprendre l'expérience carcérale et la diversité des situations.